MDM, votre radio locale.
C'est ce vendredi à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis, l'événement rock de cette semaine, et même, disons-le, de cette rentrée, le début de ce qui devrait être l'ultime tournée des Rolling Stones, qui pourrait, ça fait beaucoup de conditionnels, j'en conviens, passer l'été prochain par Marmande et le festival Gare au Rock, Wait and See. En attendant, seule certitude, le No Filter Tour, c'est son nom, se fera sans Charlie Watts, le batteur originel des Stones, décédé le 24 août dernier à l'âge de 80 ans. Alors la question qui vient forcément pour les fans de la première heure jusqu'à leur petit-fils, les Stones peuvent-ils survivre au départ définitif du plus gentleman des caresseurs de fût? Question posée à Michel Aruimi, auteur du livre « Les Rolling Stones, un art total » aux éditions Camion Blanc.
Je ne suis pas musicologue, donc je ne peux pas vraiment évoluer la qualité du jeu de Charlie Watts. On parle beaucoup du flame de Charlie Watts, moi je ne suis pas d'accord. J'ai eu la chance de le voir à Paris dans une minuscule salle, jouer uniquement du jazz avec deux ou trois musiciens de ses amis. Et je trouvais qu'il avait une énergie explosive à la batterie, et même son visage reflétait cette énergie. Donc je ne l'ai pas perçu comme quelqu'un de flegmatique, moi ce que je pourrais dire de lui.
Michel Aruimi, il le dit lui-même, n'est pas musicologue. Il a été entre autres élève de l'école du Louvre, maître de conférences en littérature comparée, et a rédigé notamment une thèse sur Kafka, l'auteur de la Métamorphose, et réalisé même un mémoire convoquant les œuvres de l'écrivain tchèque et celles des Pierres qui roulent. En même temps, rien d'étonnant de la part de quelqu'un qui décrypte les chansons de Mylène Farmer pour expliquer Rimbaud. Rencontre.
Je trouve qu'il y a chez certains chanteurs, pas seulement les Stones, mais à l'époque, c'est les Stones qui se sont imposés à moi. Ils arrivent à exprimer à leur manière des mythes, des problèmes qui ont fait la réputation de très grands écrivains, comme Franz Kafka. Et j'ose ici vous dire que lorsque j'étais très jeune, j'avais proposé en mémoire de maîtrise Franz Kafka et les Stones. Mon professeur n'était autre que Pierre Paché, qui à l'époque n'était pas connu. Et il était très dubitatif. Et quelques semaines après, je lui ai envoyé ce que j'avais fait. Il m'a envoyé des lettres où il me dit qu'il n'en revenait pas, c'était incroyable. Il m'a invité ensuite. Et il était extrêmement impressionné et intimidé par le travail que je faisais à cette époque. Donc je le dis parce qu'il est devenu depuis quelqu'un de... Il est mort maintenant, mais il est devenu un très grand personnage et je suis très fier de ce souvenir.
Les Rolling Stones, un art total, c'est décliné en plusieurs chapitres, de la musique, de la pochette, de la façon de vivre. Expliquez-nous en quoi les Stones sont un art total.
L'art total, c'est une idée qui s'impose à partir des premiers grands concerts, enfin le premier grand concert que j'ai pu voir à Paris. Ils avaient, non seulement il y avait la musique, l'interprétation, etc., mais il y avait aussi des trouvailles scéniques qui s'étendaient carrément. On avait l'impression qu'on n'était pas du tout sur Terre, on était dans une autre dimension, qu'on était dans un autre ciel. Donc leur performance est exemplaire de ce qu'on appelle depuis le début du XXe siècle, les aspirations à un art total. Pour moi, les Rolling Stones ont travaillé dans ce sens, avec l'aide de leurs collaborateurs.
Il y a eu plusieurs périodes pour les Rolling Stones. Il y en a une, selon vous. Il y a l'âge d'or, on parle de 67-72, mais il y a d'autres périodes, selon vous.
Je pense que les Stones sont toujours capables d'être égaux à eux-mêmes, à toutes les époques. Mais il y a des époques où leur production était plus unie du point de vue de la qualité. Pour moi, leur chef-d'œuvre, c'est quand même Aftermath.
Ouais.
Et puis, Let It Bleed aussi, ouais. Est quelque chose d'absolument incroyable. Par exemple, les premières mesures de les premières secondes de Monkey Man, ça vaut tous les grands musiciens. Alors je pourrais expliquer pourquoi. Mais,
oui, vous pouvez vous arrêter.
Eh bien,
qu'est-ce qui vous touche dans cette intro au piano?
On a une introduction au piano qui est d'une très très grande douceur et d'un seul coup, mais alors c'est d'un seul coup, mais c'est pas d'un seul coup parce qu'il y a une transition entre les deux qui est très très savante. Une distorsion très très violente. Et pour moi, ce qui est exprimé là, c'est tout simplement le rapport de ce que dans la Kabbale, on définit ainsi le mystère de la création, C'est l'alliance de la douceur et de la rigueur, ou sévérité, douceur ou grâce. Et je pense que tous les grands artistes, tous les grands poètes, et enfin, artistes dans tous les genres d'art, expriment ce mystère. Et les Stones, à mon avis, l'expriment parfois d'une manière très très explicite, et qui parfois est en rapport aussi avec les textes écrits par Mick Jagger, qui, d'après ma lecture, ce sont des textes qui sont admirablement écrits, avec des effets de symétrie, un équilibre de la forme textuelle, qui est vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Excusez-moi de cet adjectif idiot.
parliez de Kafka et des Stones, vous avez réussi à le placer dans le livre. Quel est le lien entre Franz Kafka, l'œuvre ou l'œuvre de Kafka, la métamorphose et, selon vous, les Stones ?
Eh bien, je vous assure que quand j'ai commencé à travailler sur Kafka, je n'avais pas encore lu le livre de Deleuze sur Kafka. Deleuze disait à l'époque que Kafka, pour lui, c'était de la pop littérature, comme on dit de la pop musique. Donc Deleuze, qui n'est pas du tout pop, a quand même perçu chez Kafka, dans l'écriture de Kafka, il y a un rythme, il y a une exigence d'écriture, un rythme très très serré. Quand on lit Kafka dans le texte ou même dans certaines traductions, on a l'impression d'une décharge électrique qui est très très contrôlée. Et ce sentiment, on peut l'éprouver aussi en écoutant les Rolling Stones. Alors, il y a une pochette des Stones qui les représente en scarabée. Et je ne sais pas si l'idée est de Mick Jagger ou du graphiste, mais en tout cas, ça vérifie un peu cette impression que j'ai eue et que j'ai développée dans un travail de mémoire, de maîtrise, quand j'étais enfant. Et j'y suis revenu, pas en recopiant, mais j'ai réinventé ce travail pour un chapitre de cet ouvrage.
Il y a dans les grands mythes également, il y a celui du diable. Il y a d'abord évidemment Sympathy for the Devil, mais aussi l'album qui n'a pas forcément bien marché ou bien été compris, celui des Satanic Request, consacré un chapitre à cette présence en filigrane toujours du démon.
Je pense que l'idée du démon, il faut rendre le démon à ce que le démon exprime. Le démon, le diable exprime la dualité dans son aspect néfaste. Et en fait, tous les artistes ont rapport à la dualité, essaient de la maîtriser dans une sorte d'alchimie. Alors on peut considérer que la musique des Stones ou même leur pochette, on peut lire leurs travaux comme une tentative de résoudre cette violence dualiste. D'où l'aspect démoniaque, d'où les références au démoniaque dans leur travail, mais qui ne sont pas tellement... Chez Mylène Farmer, c'est beaucoup plus profond, le rapport au diable.
Comme Mick Jagger, par exemple, et Mylène Farmer, il y a...
Le travail que j'ai fait sur les sons est un peu plus éloigné dans mon esprit. Les chansons écrites par Jagger, je pense qu'on peut on doit les lire, les interpréter avec autant d'acuité que celles de Mylène Farmer.
Le culte de l'androgynie aussi, qui rejoint les deux.
L'androgyne, par exemple, chez Mylène Farmer, il y a une chanson qu'elle a écrite, une des plus belles à mon avis, c'est « Mylène s'en fout ». Elle évoque un partenaire qui est hyper féminisé, mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette chanson, elle introduit des motifs comme l'améthyste et le jade, qui sont deux symboles matériels de l'unité absolue. Et donc c'est le symbole de l'union du masculin et du féminin. Chez Mick Jagger, l'androgyne est vécue d'une manière plus douloureuse. Je pense à une très vieille chanson, Under My Thumb, qui est quand même pour moi le chef-d'œuvre des Rolling Stones. Donc c'est l'idée d'une intégration du féminin à l'intérieur de soi, avec l'ambiguïté de l'expression Under My Thumb. Ça veut dire que je l'ai sous moi, mais en même temps, c'est parce qu'il a capté la féminité de sa partenaire. Mais il y a quand même une dualité féroce à l'égard de cette pauvre partenaire dont la féminité n'est pas vraiment respectée. Donc je pense que le problème est vécu de manière plus douloureuse par Mick Jagger que par Mylène Farmer.
Dernière question, je vous à peine vous demander, et du coup, entre un concert de Mylène Farmer et un concert des Rolling Stones, s'il fallait choisir.
Ma réponse va vous décevoir terriblement, parce que certes, j'avais adoré un ancien concert des Stones, qui m'avait ébloui, je ne sais plus où c'était à Paris, au Parc des Princes. Mais les autres que j'ai vus ensuite, je n'entendais rien, l'acoustique est très très mauvaise. Mylène Farmer, c'est le concert pour Innamorato était éblouissant, mais la suite, un peu plan-plan par rapport au début.
Vous êtes exigeant.
Et oui, très. Et de toute façon, en tant qu'homme, j'ai plus de plaisir à écouter les chanteurs chez moi. Ouais. Je suis désolé qu'à les voir en concert.
Entretien réalisé lors de la dernière édition de Monde Livre à Mont-de-Marsan en août dernier. Le chercheur Michel Haroimi, auteur de The Rolling Stone, un art total, aux éditions du Camion Blanc, et qui termine actuellement un ouvrage consacré aux Smashing Pumpkins intitulé L'unité mise en pièces. On l'aura compris, celui qui a écrit également Mylène Farmer pour comprendre Baudelaire ou Rimbaud ne sera pas le 26 septembre prochain aux États-Unis dans le Missouri pour la première date des Rolling Stones. Les fans français du plus grand groupe de rock de tous les temps restent eux à l'affût avec la frénésie que l'on devine en attendant un message d'alerte des organisateurs de Garo Rock à Marmande.
On écoute et on se détend.